Chapitre 33. Iris. Madame Beaulieu est morte. Son AVC a pu être stabilisé, mais 3 jours plus tard, le deuxième ne l'a pas loupé. La directrice de l'agence m'a mise au courant et rassurée. Elle allait m'envoyer chez quelqu'un d'autre pour la remplacer, une dame âgée atteinte de la maladie de Parkinson. Gênée, j'ai éludé le sujet. Évidemment, Madame Beaulieu représentait une partie non négligeable de mon salaire, mais à l'heure de son décès, ce n'était pas ma première préoccupation. Un peu plus tard, sa fille m'envoyait un message pour me remercier de ma présence aux côtés de sa mère. J'ai répondu en quelques lignes d'une banalité affligeante, n'osant lui dire à quel point j'étais triste, à quel point je savais combien elle souffrait. Nadia est dans son lit quand j'entre chez elle. Son fils est assis à côté d'elle, plongé dans la lecture d'À la recherche du temps perdu. Il n'est pas allé à l'école, m'indique-t-elle. Il a vu que j'étais faible et ne voulait pas me laisser seule. Il lit du Proust à 10 ans. Je crois qu'il peut manquer l'école un jour ou deux. Vous avez vu le docteur? Oui, ce matin. C'est une nouvelle poussée de ma sclérose en plaques. Mes jambes ne me portent plus, je suis obligée d'utiliser le fauteuil. Je suis dégoûtée, je viens de m'acheter une petite robe et je n'arriverai jamais à la mettre. Je peux vous aider? Elle rit. Elle est trop courte. Quand je serai assise, on aura une vue imprenable sur mon intimité. Et je serai incapable de l'enlever seule. Je suis condamnée à porter des tuniques confortables et faciles à enfiler, mais qui me font ressembler à une vieille. Pardon, maman, mais tu n'es plus toute jeune, intervient Léo. Merci, mon chéri. Je n'ai que 36 ans, tu sais. C'est bien ce que je dis, rétorque le petit en s'efforçant de ne pas sourire. Nadia m'impressionne par son acceptation de la maladie et sa résilience. Elle ne saute pas les obstacles, elle les explose. Elle me rappelle les enfants dont je m'occupais au cabinet de La Rochelle, leur joie de vivre à toute épreuve, même celle de la maladie. Il n'était pas rare que je rentre le soir épuisée moralement face aux injustices de mère nature. Jérémy m'écoutait, me réconfortait et me répétait combien mon métier était admirable. Il s'inquiétait même, se demandait si j'étais assez solide. Je pensais que je risquais de m'abîmer. Je me souviens d'un soir, notamment, où je lui avais confié ma tristesse après le pronostic sombre qu'avait reçu le petit Lucas de 6 ans. Jérémy m'avait serré fort dans ses bras et avait caressé ma tête. « Ma chérie, tu as beaucoup de qualités, mais tu es bien trop sensible pour faire ce métier. Tu crois que le petit Lucas n'a pas senti ta peine? Tu crois que tu lui rends service? Je suis désolée si je suis un peu brutale, mais il faut bien que quelqu'un te le dise. Tu n'es pas faite pour ça, et tu fais plus de dégâts que de bien. » Il avait fragilisé une partie de moi que je pensais inébranlable. Jamais je n'avais questionné ma vocation, mon professionnalisme et mon utilité. Le doute m'encombrait dans de nombreux domaines. Il ne m'avait jamais effleuré dans celui-là. Pourtant, les mots de Jérémy avaient fait vaciller mes certitudes. Le pire, c'est que j'ai préféré croire qu'il avait raison plutôt que de penser qu'il pouvait vouloir me nuire. Le docteur pense que cette fois je ne récupérerai pas, me dit Nadia pendant que je l'aide à sortir du lit. Je suis bonne pour une vie à 4 roues. Le rêve, s'exclame son fils. Je déteste marcher, t'as trop de la chance. Nadia éclate de rire, et Léo vient se blottir contre elle. Comme elle, il manie la dérision comme une arme tranchante. Je les observe tous les deux, sans doute aussi éprouvés l'un que l'autre par cette nouvelle attaque de la maladie. Je les vois déployer des efforts incommensurables pour ne pas laisser la résignation l'emporter, franchissant main dans la main les épreuves en prenant soin de ne pas entraîner l'autre dans ses tourments. J'admire ce tableau d'une mère et son enfant, et je me dis que tout est possible. Nadia m'a confié une fois que le père de Léo s'était volatilisé pendant sa grossesse. Elle a retrouvé, a insisté pour qu'il reconnaisse son fils, persuadé que la peur allait le priver d'un grand bonheur. Il s'est laissé convaincre, mais a disparu de nouveau quand l'enfant a eu 3 mois, pour ne plus jamais donner signe de vie. Je vais avoir un enfant seul, comme de nombreuses femmes avant moi. On sera heureux. Je nous en fais la promesse.